Joyeuses fêtes de Pentecôte à tous et à toutes. C'est vrai que c'est un jour particulier, nous fêtons la Pentecôte qui vient de 50, c'est 50 jours. Et une des caractéristiques de la Pentecôte, le jour où ça s'est passé, dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, lorsque vous relisez le passage, vous apercevez qu'ils priaient, ils étaient dans le même lieu, ils priaient. Le Saint-Esprit est venu se poser sur chacun d'entre eux comme des langues de feu et ils se mirent à parler dans d'autres langues. Et les gens qui passaient par là entendirent parler dans leur langue maternelle alors qu'ils étaient tous galiléens, disent-ils dans le passage. Et lorsque il y a quelque chose que Dieu, en tout cas, veut faire, c'est qu'à travers nous, il veut parler au cœur des hommes. Vous savez, autour de nous, et même dans l'Église, la preuve en est, des gens ont besoin d'entendre Dieu leur parler. Et lorsque la parole entre dans la vie de quelqu'un, enfin en tout cas, de ce que j'ai vu ce matin, je peux vous dire quelque chose. C'est que lorsque la parole prophétique, par exemple, est envoyée dans la vie, dans une église, il y a comme un environnement particulier qui est là, et votre manière d'adorer était différente avant et après. Avez-vous remarqué cela ? Parce qu'elle crée la foi, elle crée quelque chose. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. La preuve en est, c'est que tous ces gens qui entendaient parler dans leur langue maternelle, parce que ce parler en langue, si je peux dire, était prophétique, ils entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. C'était un parler qui était traduit, si je puis dire, par les gens qui le recevaient. Et Dieu veut parler à son Église, mais il veut parler à travers sa parole, mais il veut parler aussi à travers les prophéties des prophètes. Alors vous avez entendu ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, la vision qui a été apportée par Damien. Derrière, Martin est venu partager ce qu'était une culture d'église. Si vous n'étiez pas là ce jour-là, ben écoutez, je vous invite à écouter pour être en osmose avec nous, à ceux qui étaient là. Et dans les deux semaines qui arrivent, là, je voudrais vous parler que tout ce que nous faisons ici est prophétique. Rien de ce qui est fait ici n'a pas été initié par Dieu. Tout a été initié par Dieu ici. À chaque fois que Dieu a parlé, on n'a pas tout compris tout de suite, on ne prétend pas avoir toute la connaissance, mais on a toujours essayé de comprendre ce que Dieu voulait nous dire. Et toutes les choses que nous avons faites ici est basées sur ce que Dieu a dit. Mais là, en tout cas, je m'en suis aperçu lors d'un week-end où je suis allé dans notre famille d'église, où j'ai enseigné quasiment les mêmes choses qu'ici, pendant ces deux semaines. Et je me suis aperçu en réalité que beaucoup de personnes avaient un problème par rapport à la prophétie. Parce que la prophétie, lorsqu'elle est mal gérée, les prophètes, lorsqu'ils sont mal, lorsqu'ils travaillent mal ensemble, ça peut provoquer vraiment de grands dégâts. Et il y avait un temps de partage après ces enseignements. Et je me suis rendu compte, en fait, avec Marie, j'y ai réaliste, on s'est rendu compte combien des gens ont fait du mal à travers les prophéties. Alors que ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est quoi ? Si quelqu'un prophétise, pour ceux qui étaient là au bibliogroupe jeudi, ouais, je vieillis, hein. Jeudi, il est dit que celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, exhorte, console. Et tout ce que nous voulons ici, c'est ça. Mais nous voulons créer un environnement prophétique. Je vous rappelle que le prophète Samuel, il avait fait quelque chose d'important. C'est qu'à Nayoth, il avait rassemblé des prophètes et les enseignait comme des prophètes. Il leur permettait de prophétiser parce que les choses soient claires. Ce que nous ne voulons pas, surtout pas, c'est qu'une personne prophétise, c'est que tous prophétisent. Parce que il est écrit dans 1, et alors, donc j'en reviens à Samuel avant d'aller plus loin, Samuel, il avait vraiment tellement favorisé cet environnement prophétique que même lorsque les adversaires, des gens étrangers à leur vision, venaient, ils étaient captés, saisis par ce qui avait été posé à cet endroit-là. Et que faisaient-ils ? Ils se mettaient eux-mêmes à prophétiser. Et même le roi Saül, qui était venu avec des désirs de meurtre à l'égard de David, il est reparti. Je ne vous dirai pas comment il est parti. Vous savez comment il est reparti ? Tout nu. Il est reparti tout nu et il s'était mis à prophétiser. L'environnement de ce que Samuel était tellement bien fait, tellement bien établi, qu'automatiquement, chaque personne venait et elles étaient touchées. Et j'ai retrouvé un peu dans 1 Corinthiens 14, je suis désolé pour ceux qui étaient là au bibliogroupe, il est écrit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu ? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance d'une parole qui peut être apportée dans la vie d'une personne ? On peut faire des entretiens. On peut suivre des personnes pendant des années. Ce qui va changer la vie d'une personne, c'est la parole de Dieu qui est envoyée dans le cœur de la personne. Je parle de la parole ici, qui est la Bible, mais la parole que Dieu dit à une personne. Je reste persuadé, en tout cas pour les personnes qui ont reçu la parole prophétique ce matin, je ne dis pas que tout est de Dieu. C'est à vous maintenant d'aller devant le trône, de prier, de dire, voilà, j'ai reçu ça un dimanche matin, alors que je m'y attendais peut-être pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, Seigneur ? Et ça, on abordera le sujet de la prophétie une fois qu'elle est délivrée, comment la gérer derrière. D'accord ? Donc, le modèle biblique pour bâtir avec les prophètes. Et j'aimerais qu'avec les prophètes, on puisse aussi avoir un petit regard sur la manière dont on doit travailler les uns avec les autres. D'accord ? Ça marche ? Vous êtes d'accord ? Bon. J'ai eu quelques regards de désaccord. Oh, je me sens mal à l'aise d'un coup. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, à travers, par sa parole, Dieu veut construire, veut bâtir. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, tu dois toujours avoir en conception, dans un coin de ta tête, que dans ton disque dur, que quand une parole t'est donnée, que tu comprends une parole de la Bible, tu dois être capable, à un moment donné, de comprendre que Dieu veut bâtir avec toi. Mais bien au-delà de tout ça, il veut nous amener à finir, bâtir et finir. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, vous connaissez tous ce passage, que Dieu donne, que Jésus donne les ministères dans le but de nous faire atteindre la stature parfaite de Christ et que l'état d'homme fait. Vous comprenez ? Donc, quand Dieu envoie sa parole et quand il envoie un prophète, quand il envoie une parole prophétique, c'est toujours bâtir et finir quelque chose en nous. Et en réalité, on vous verra la semaine prochaine que ce n'est pas parce qu'une parole est délivrée que tu as déjà terminé. En réalité, la parole n'est que le commencement de ce qui doit arriver derrière. Et là, ici, on a un exemple parfait dans l'Ancien Testament, dans Esdras chapitre 6, d'une collaboration entre les prophètes et les hommes, et si je puis dire, le pouvoir exécutif. Tatnaï, pauvre garçon, ça s'appelait comme ça. Gouverneur de ce fleuve, du côté de ce fleuve, alors lui, et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. À un moment donné, le roi Darius est touché dans son cœur et dit je donne l'autorisation qu'ils puissent aller rebâtir leur temple. Et regardez ici. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Selon les prophéties du prophète Agé, le prophète. Et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius, les enfants d'Israël et les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison. Le livre d'Esdras, c'est l'exemple historique où les prophètes bâtissent et bâtisseurs travaillent l'un à côté de l'autre. Il faut vous sortir l'idée qu'un prophète travaille seul. D'accord ? Et on a vu ça dans le passé. Et à chaque fois que j'ai vu des dégâts, c'est lorsqu'un prophète est arrivé, il travaillait seul sans collaborer avec les gens qui étaient en place d'autorité dans la communauté. Et j'ai entendu une histoire assez folle où, dans une église de notre famille d'église, il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années, 20-21 ans. Et le prophète arrive et lui dit, le pasteur avait invité le prophète, il dit, tu es, voilà le jeune homme d'ailleurs, tu es appelé au ministère pastoral, Eduardo. Voilà ce qu'il lui dit. Et il l'établit comme ça devant tout le monde, pasteur. Le pasteur va le voir après la réunion et lui dit, eh oh Eduardo, il faut juste que je te dise un truc. Il faut vraiment que tu travailles d'abord, que tu étudies, que tu puisses être à côté de moi, parce que j'ai des choses à te transmettre, à te communiquer, etc. Vous savez ce que lui a répondu le petit jeune ? Il lui a dit, mais t'as oublié ce qu'a dit le prophète. Je suis pasteur. Scission d'église. Aujourd'hui, dans cette église, il y a une méfiance, je peux vous le dire, demandez à Gérialiste, on a entendu ce que le pasteur a écrit sur le prophétique. Il a une vraie méfiance, mais je comprends. Alors que normalement, le prophète aurait dû appeler le jeune, Eduardo, le prendre à côté et dire, voilà, Dieu vraiment a dit qu'il y a un appel pastoral sur toi. Et il aurait dû appeler l'autorité de l'Église et dire, voilà, jeune homme, ça, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais sache une chose, c'est que cette parole qui vient de sortir de ma bouche ne pourra s'accomplir pleinement selon la volonté de Dieu si tu suis cet homme. Quel manque de sagesse, parfois la prophétie a été utilisée. Et je suis triste lorsque j'entends des personnes dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de prophétie. Parce que le jour de la Pentecôte, qu'ont fait les disciples ? Ils ont prophétisé en langue. Ils ont parlé au cœur des hommes de la part de Dieu à travers un parler en langue qui a été interprété par les propres personnes. Et souvent, les bâtisseurs, les prophètes, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent travailler ensemble. Forcément, tout le monde n'a pas une fibre prophétique. Mais en tout cas, le prophète doit travailler avec les bâtisseurs et les bâtisseurs doivent travailler avec le prophète. Zorobabel, le gouverneur, représente la capacité exécutive. Si je puis dire, allez, on va dire ici Damien. Josué, le sacrificateur, représente la dimension spirituelle. Allez, on va dire Bruno. Zacharie, le jeune prophète visionnaire et âgé, l'ancien prophète pragmatique, représente la dimension prophétique. Ça peut représenter dans notre communauté tous les prophètes ou toutes les visions, toutes les choses qu'on a pu recevoir prophétiquement. Et les anciens représentent la dimension pastorale. C'est notre bon ancien venant de Belgique, Jean-Luc. Alors, je voudrais qu'on puisse regarder à un moment donné sur la prophétie d'Esdras. Parce qu'apparemment, il s'est passé quelque chose. Dieu avait en projet, puisqu'il travaille le cœur de Darius, il travaille le cœur de l'autorité du peuple qui était esclave en captivité en Perse. D'accord ? Et là, il y a quelque chose qui est initié par Dieu dans le cœur de plusieurs personnes, dans le cœur d'Esdras, dans le cœur de Néhémie qui veut rebâtir les murailles. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Et là, il y a Dieu qui est en train d'initier quelque chose. Et une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, que se passe-t-il ? Les gars, ils arrivent à Jérusalem et que font-ils ? Ils se construisent leur propre maison. Ils bâtissent leur propre environnement où ils pourront se sentir bien. Et Agé reçoit de la part de l'Éternel ceci. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison. Le peuple dit ça dans son cœur. C'est pas le temps. On n'a pas les moyens. On n'a pas les ressources. On n'a pas la capacité de faire. Et Agé répond, Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Dieu est en train, par la bouche du prophète, d'éveiller dans le cœur des gens le désir de dire « C'est bien beau, tu fais bâtir ta maison à 300 000 euros, tu as acheté un terrain, c'est parfait, tu vas mettre une cuisine équipée, c'est parfait, mais ma maison, qu'est-ce que tu en fais ?» Voilà ce que Dieu est en train d'initier dans le cœur du peuple. Considérez attentivement vos voix, parce que Dieu était en train de parler depuis quelques années, depuis quelques mois, il était en train de dire « Hé, vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Posez-vous la question. Vous travaillez votre jardin, mais vous ne récoltez pas les fruits. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Comprenez ce qui se passe. » Et une des manières que Dieu a nous parlé, c'est à travers les circonstances négatives de nos vies. Je ne dis pas, parce qu'il y a une épreuve dans ma vie, que c'est le résultat de ma désobéissance, mais parfois et souvent, Dieu m'a souvent parlé à travers les circonstances difficiles dans ma vie, où il a initié quelque chose, un réveil. Il m'a dit, pose-toi la question, s'il y a un blocage aujourd'hui dans ta vie, quel que soit le blocage, s'il y a des choses qui n'arrivent pas, pose-toi la question, quelle est ta priorité aujourd'hui ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. En réalité, moi j'ai pris une décision, il y a quelques années, je chercherai le royaume. Je chercherai à bâtir le royaume dans une communauté qui est Betsalel. Et c'est ma priorité. Et je peux vous dire que Dieu me donnera toutes choses par-dessus. Il l'a déjà fait et continuera à le faire. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Eh ouais. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, mais Dieu ne fait pas ça parce que tu désobéis. C'est pour éveiller ma conscience qu'il fait ça. C'est pour éveiller notre conscience que Dieu nous parle prophétiquement. Quand il envoie des prophètes, c'est pour ramener le cœur du peuple vers le cœur du Père. Deux fois, j'ai entendu ma fille et mon fils. Deux fois, ce matin, j'ai entendu prophétiquement des choses qui amenaient ces personnes vers le cœur du Père et à le rejoindre. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Et Agée, ça vous pouvez lire ça dans le livre d'Agée, il est contemporain de cette époque où le peuple a été interpellé à rebâtir la maison. Voyez ce que fait cette prophétie. Elle enclenche quelque chose. À un moment donné, le peuple va arrêter de penser à sa propre maison et il va commencer à dire « Mais qu'est-ce que je peux faire pour la maison de l'Éternel ?» Très intéressant. Un regard sur la prophétie. La prophétie dit, bon ça je l'ai dit, « Il est temps de bâtir ma maison et que cela soit votre priorité. Vos maisons doivent désormais passer en second. » J'ai pas d'autre message à vous dire. Je suis désolé, mais c'est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je sais, j'ai peur d'être pris pour dérive sectaire quand je dis ça, mais la priorité, c'est le royaume de Dieu. Je suis désolé, je n'ai pas d'autre message. Et cette parole prophétique est donnée par l'Éternel dans un cadre stratégique. Est-ce que vous comprenez qu'elle va faire naître quelque chose ? Parce que Dieu, il a un plan. C'est l'architecte de la reconstruction. Il a dit, bon, lui, il a un cœur vraiment à rebâtir, Esdras. Lui, il a Josué, souverain sacrificateur. Ah, d'accord, des fois, il se sent un peu coupable. Mais c'est rien, je vais l'utiliser. Zorobabel, le gouverneur, je vais l'utiliser. Dieu a tout prévu, tous les moyens comme ça. Et il dit, mais tout est là, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Et donc, la parole prophétique va ping, envoyer l'étincelle. Et elle va amener un mouvement dans cette communauté qui va rebâtir le temple. La question que nous nous posons ici, et que je me poserai toujours, c'est ce que nous faisons dans nos vies ou dans notre assemblée, est-ce que c'est stratégique ou juste quelque chose qui alimente notre confort ou une activité d'église ? C'est-à-dire que quand tu viens ici? Est-ce que tu viens pour bâtir selon la vision que Dieu a accordée? Ou est-ce que tu viens pour faire une activité? En tout cas, nous, nous avons pris la décision de tout faire pour que ce qui sera bâti ici soit fait stratégiquement selon ce que Dieu a initié par la bouche des prophètes. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, on peut dire prospérèrent. Selon les prophéties du prophète Agée, le prophète et Zacharie, ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël. Bâtir ici, ça vient de l'hébreu bana, qui veut dire bâtir ou établir quelque chose avec longévité. Clairement, je sais que moi, je ne verrai peut-être pas les fruits de mon vivant, de ce qui s'est fait ici, mais je souhaite en tout cas que ce qui sera bâti le soit tellement fait solidement que dans deux générations, ce que Dieu aura déposé ici par la bouche d'un homme qui a créé cette communauté à Marcq-en-Barœul à l'époque puisse arriver à son terme. Évacuons donc l'idée que la prophétie amène une action temporaire. Trois paroles prophétiques ont été données ce matin. Maintenant, la responsabilité de ces personnes, c'est est-ce que ça va juste me faire du bien sur le moment présent ? Et je suis sûr que la parole leur a fait du bien. Ils ont senti l'action du Saint-Esprit, etc. Mais la question que nous devons nous poser lorsque Dieu donne sa parole à quelqu'un ou à une œuvre, il le fait toujours de bâtir dans la durée. J'ai des paroles prophétiques, moi, à la maison, que je relis régulièrement et que je prie. Et vous savez, pas plus tard qu'au début de mon arrêt de travail, début mai, je sais que Dieu m'a parlé à un moment donné. C'est comme si il y a un éclairage sur une phrase. Une phrase. Et depuis, ça a amené un mouvement en moi. C'est-à-dire que quand Dieu donne une parole, il y a 10 ans, 10 ans plus tard, elle doit encore avoir de l'effet dans ta vie. Et elle doit avoir de l'effet dans ta vie. Donc évacuons donc l'idée que ce soit temporaire. Mais lorsque Dieu donne sa parole à quelqu'un ou une œuvre, c'est toujours dans la durée, se pose la question, que faisons-nous des paroles que Dieu nous a données ? À qui Dieu, est-ce qu'il y a des gens ici à qui Dieu n'a jamais parlé de manière prophétique ? Est-ce qu'il y en a eu ? Allez, soyez... J'ai fait le... Non, tout le monde a déjà reçu ici une parole prophétique de la part de quelqu'un ? Ben, merci Seigneur. Donc vous avez une responsabilité maintenant. C'est qu'est-ce que vous avez fait de cette parole ? Est-ce que déjà au moins vous l'avez réécoutée ? Est-ce qu'au moins vous l'avez écrite ? Est-ce qu'au moins vous l'avez priée ? Est-ce qu'au moins vous avez engagé un plan d'action par rapport à ces paroles ? Petite question comme ça, je vous laisse avec. Et prospérer en hébreu, c'est shalak, c'est pousser vers l'avant, avancer, amener en mouvement vers. Et quand Dieu donne sa parole, ce n'est pas simplement pour devenir plus riche, plus grand, plus fort, mais c'est une poussée de son royaume vers l'avant. C'est-à-dire que quand Dieu donne une parole à une personne, il la pousse, mais pour l'amener vers quelque chose de plus grand, de plus puissant dans sa vie. Parce qu'il va bien au-delà de ce que nous voyons, nous, d'une manière humaine, terrestre. Il voit le projet. Par exemple, pour toi, il s'imagine en train... Moi, je m'imagine, vous savez, la parabole des talents qui est multipliée. Et tu es une mère poule, si je puis dire, qui va pondre 2 œufs. Et tu vas amener ces 2 œufs à être fécondés en Christ et à ressortir, à devenir elles-mêmes des mères poules. T'imagines 2, 4, 8, 16, 32, etc., etc. Vous imaginez ce que Dieu a prévu à travers toi ? Mais c'est ça qu'il prévoit. Parce que ça, c'est la loi du royaume. C'est le royaume de la multiplication. C'est le royaume... Je ne fais pas l'évangile de la prospérité, hein. Mais c'est le royaume de la multiplication que Dieu veut. Est-ce que tu es convaincu qu'à travers toi, Dieu veut multiplier ? Et lorsque la parole est envoyée dans quelqu'un, c'est pour pousser cette personne vers sa destinée, vers de bonnes choses. C'est jamais pour faire du mal, jamais. Ah bien sûr qu'il va te reprendre. Mais bien sûr, il peut reprendre à travers une prophétie. Mais c'est toujours pour me pousser vers l'avant. Jamais pour me dire, hé garçon, tiens, toi, t'es pas bon, assieds-toi là, on fera jamais rien de bon avec toi. Ça, c'est satanique. Ça, c'est la pensée satanique que Dieu ne veut pas, que Satan nous envoie. Mais la pensée divine, la parole prophétique me pousse vers l'avant. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'amène à vous expliquer pourquoi nous faisons les choses comme nous les faisons aujourd'hui. Parce que la parole prophétique provoque toujours un changement radical dans les cœurs qui chercheront à vivre les valeurs du royaume. Les prophètes n'ont pas seulement encouragé les autres dans une activité d'église. Moi, je ne ferai jamais venir un prophète ici juste pour faire une activité d'église. Ah bah tiens, Seigneur, il va faire. On va passer 2 heures ensemble, 1 heure de louange, 1 heure de prophétique, et puis les gens, ils vont repartir là. Et puis, je ne dis pas que les paroles ne sont pas de Dieu, mais qu'est-ce qu'elles ont apporté dans la vie des gens? Moi, ce qui m'importe, c'est que quand tu reçois une parole, qu'est-ce que tu vas en faire avec? Quelle sera ta destinée après? Mais dans une structure où la construction va durer et amener le peuple de Dieu à une plus grande percée du royaume. À un moment donné, le temple va se relever. À un moment donné, les ruines deviennent quelque chose de bâti, de solide, de structuré. À un moment donné, ta vie qui est détruite, qui est faible, où il n'y a plus rien, tu peux, par la parole de Dieu et par la parole prophétique, tu peux, qui est toujours en accord avec la parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi, tu vas pouvoir remettre une fondation, tu vas pouvoir remettre des pylônes, des étages, des murs, des portes, des fenêtres, etc. pour amener ta vie dans une structure, une stabilité qui représente la stabilité du royaume de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, hey Bruno, ça c'est dans l'Ancien Testament, exactement la même chose dans le Nouveau. Il faut que je me dépêche. Il y a un contexte dans l'église d'Antioche, Actes chapitre 15. Vous connaissez ce contexte, qui ne le connaît pas? Donc j'arrête puisque vous le connaissez. Non. Il y a des hommes judaïsants qui enseignent des pratiques selon le rite de Moïse. Verset 1. On ne va pas le lire. Hein. Réaction de Paul et Barnabas. Il est écrit au verset 2 qu'il y a une vive discussion. Paul prêche un évangile et ces hommes viennent un peu biaiser cet évangile-là. Paul et Barnabas sont envoyés à Jérusalem pour exposer ce problème avec les apôtres. Tiens, intéressant. L'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé son ministère, a cherché la main d'association. Et ce n'est pas juste une main d'association pour dire, histoire de bien, vous voyez, je montre que je suis... Non, quand Paul donne sa main d'association... Dans un problème donné qu'il va retrouver par la suite, il retrouve la main d'association qu'il a donnée à Jérusalem auprès de Pierre et les autres apôtres. Et Paul et Barnabas sont envoyés à Jérusalem pour exposer ce problème avec les autres apôtres. Un concile a lieu où des décisions précises sont prises et doivent être communiquées. C'est pas ça le problème, hein, des décisions qui sont prises. Mais je voudrais que vous puissiez regarder le fonctionnement de ces hommes avec les apôtres, les prophètes. Ce qui caractérise les hommes judaïsants. Écoutez ça, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour, je ne sais pas, si un jour je ne suis plus là ou vous allez dans une autre communauté, peu importe. Ce qui caractérise les hommes judaïsants, c'est qu'ils viennent de Jérusalem. Tiens, ils viennent de l'église de Jérusalem, mais ils n'ont pas été envoyés. Intéressant. Ils n'ont ni mandat, ni autorisation. C'est écrit au verset 24, vous irez vérifier. Et le résultat, trouble, désordre, confusion. Autrement dit, quand quelqu'un dans une communauté s'envoie lui-même, le résultat, trouble, désordre, confusion. Je vous surprends. Hein. Et ce qui caractérise les hommes envoyés par les apôtres, regardez, ils sont choisis par les autorités de l'église de Jérusalem. Ils sont délégués. Il y a un mandat d'autorité qui leur est donné. Ils ont exposé leur vie. C'est-à-dire que ces hommes ont déjà donné dans la vie de la communauté preuve qu'ils étaient tout entiers pour avoir comme priorité le royaume de Dieu. Eux ne se sont pas occupés de leur maison. Ils se sont occupés du royaume. Ils accompagnent le processus établi au sein de la communauté. Ils appuient la vision que Dieu a donnée à la communauté. Ils protègent cette vision-là. Et ils rendent compte de leur activité, versets 25 à 40. Ils rendent compte de leur propre activité. Autrement dit, l'apôtre Paul et Barnabas vont aller là-bas. Ils vont dire, voilà ce que les apôtres, le concile a dit. Nous, et ce qui a été décidé. Ils vont passer du temps avec les gens, les enseigner. Et que font-ils? Ils reviennent à Jérusalem et ils disent, voici ce que nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait. Le résultat, quand je vois la différence entre ce qui caractérise les hommes qui s'envoient eux-mêmes et les hommes qui sont envoyés par les apôtres, c'est qu'il y a protection, édification de l'Église, stabilité et encouragement. Et c'est ce que nous voulons ici. Que les choses soient claires entre nous. C'est ce que nous voulons ici. Personne ne s'enverra seul. Et ça, je le fais pourquoi ? Parce que j'ai déjà vu des dégâts. Et j'ai déjà vu aussi que parfois des personnes se sont envoyées seules et j'ai laissé faire. Ça a provoqué de la confusion ici, ça a provoqué du dégât, mais ça provoque aussi du dégât dans la propre vie de la personne qui s'envoie seule. Quelques remarques sur ceux qui prophétisent. Balaam fut un grand prophétiseur, je l'ai mis entre parenthèses. Jude l'appelle cependant un faux prophète. Il fonctionnait lui aussi sans mandat. Et il cédait au pouvoir et à l'influence de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand je regarde quelqu'un qui prophétise, je dois d'abord, avant d'écouter ce qu'il dit, c'est d'écouter son cœur. A-t-il de l'amour ? La voix par excellence, 1 Corinthiens 13. A-t-il une volonté de bâtir dans la vie des gens ? Est-ce qu'il se donne en spectacle ou est-ce que c'est pour faire du bien aux gens ? Ce n'est pas parce que quelqu'un a la capacité de prophétiser ou qu'il a reçu un don au ministère, ce n'est pas parce qu'il a la capacité de prophétiser correctement qu'il a le droit et le pouvoir d'aller et de fonctionner dans une église. Je répète, ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il peut aller dans une église et faire ce qu'il veut. Le prophète doit passer par un processus de développement interne. Attention, le messager ne peut pas être différent de son message. Ok ? Le messager ne peut pas être différent de son message. Le prophète doit être capable de fonctionner à côté des anciens. Et je dirais tout ministère, que ce soit apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, tous doivent fonctionner à côté des anciens qui ont autorité dans l'Église. Le prophète doit être capable de fonctionner donc comme ça. Le compte-rendu à une autorité est nécessaire. Je dois rendre compte. Clairement établi dans le Nouveau Testament, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et anciens travaillaient ensemble. Et la structure en Esdras, vous la retrouvez dans le Nouveau Testament. Vous avez quelques cas, je vous l'accorde, de prophètes qui ont travaillé un peu plus isolément, mais en général, vous retrouvez toujours cette structure-là. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà l'environnement que nous voulons établir ici. Mais ce n'est pas un environnement à la n'importe quoi. C'est un environnement sécurisé. Un environnement où les gens n'auront plus peur quand quelqu'un commencera à porter des paroles prophétiques. C'est un environnement où quand la personne commencera à recevoir une parole, elle ira vers cette destinée de la parole. Elle commencera à travailler avec cette parole. Et la semaine prochaine, si vous êtes sage, ce sera le modèle biblique pour bâtir avec la prophétie. Et là, on verra qu'il faut faire très attention à la manière dont nous écoutons. Dieu parle différemment. Voilà, je vous mets un peu, j'espère, l'eau à la bouche. Parce que c'est vraiment important. Parce que dimanche prochain, nous allons expliquer, enfin je vais expliquer comment Dieu parle, ce que nous devons faire à partir d'une parole prophétique et ce que nous avons mis en place ici à partir des paroles que nous avons reçues et pourquoi nous sommes dans ce fonctionnement-là aujourd'hui. C'est tout simple. Est-ce que vous êtes d'accord ? On fera ça. Parce que nous voulons un environnement prophétique ici. Il était prophète, l'homme qui a initié cette église. C'est un prophète. Et nous avons en quelque sorte hérité de son identité prophétique. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes là. C'est parce que Dieu veut vous amener dans cet environnement-là, tout simplement. Amen. Voilà, alors avant qu'on prenne le repas, tu as prévu quelque chose pour partager le repas ? De partager, non ? Ben on va d'abord prendre le repas.